Alors bien, donc on est très heureux de pouvoir nous entretenir avec Patrick Sobral aujourd'hui au sujet des légendaires, une fois n'est pas coutume, donc pour ActuSF et à l'occasion du Salon Jeunesse de Montreuil et de la sortie du tome 17.
17, oui, exact.
Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors, avant d'en revenir plus précisément aux légendaires, une petite présentation rapide de votre parcours et...
Le parcours ça va être assez vite fait. Les légendaires c'est ma seule série, hein, donc à ce niveau-là on va pas faire une très grosse biographie. Donc les légendaires, voilà, c'est ma série principale, c'est la série que je fais depuis maintenant 10 ans, hein. 2014 c'est l'année des 10 ans de la série, une série qui en est à son 17e tome, qui flirte avec les 3,5 millions de ventes, donc je suis très content. Série qui est devenue un best-seller, c'était pas forcément gagné au départ parce que c'était pas une série que je voyais avec beaucoup d'avenir, sincèrement, au départ, parce que lorsque j'ai proposé cette BD aux éditeurs, je voulais plutôt faire à l'époque de la BD d'horreur, des trucs bien plus trash, et c'est parce que personne n'a voulu de ces séries-là, de ces projets, que je me suis tourné vers la BD jeunesse, et les légendaires, c'est ce que j'ai fait faute de mieux, on va dire. Donc, sincèrement, je ne croyais pas du tout que cette série allait cartonner à ce point-là. J'ai mis moi-même très longtemps à apprécier cette série-là, pour laquelle je ne me sentais pas spécialement fait, comme quoi tout est une question de remise en question.
Effectivement, puisque là maintenant il y a quand même un sacré vécu.
C'est vrai que... alors à quoi ça tient, je sais pas. C'est vrai que c'est une série qui a un graphisme assez dynamique, assez moderne, très influencé manga, hein, ça je pourrais difficilement le nier de toute façon. Moi j'ai grandi avec toutes les premières séries japonaises à la télé, à l'époque du Club Dorothée, et des séries comme donc les Chevaliers de Zodiac ou Dragon Ball sont les séries par exemple qui m'ont le plus influencé graphiquement, mais également dans l'esprit, hein, dans le ton de la série. Et j'assume ça complètement. Alors après j'ai créé mes propres univers, mes propres personnages évidemment, mais on sent bien ce petit côté vintage années 80-90 dans la série, et ça a l'air de parler aux jeunes de maintenant, comme quoi c'est intergénérationnel ce type d'aventure.
D'une génération à l'autre, on retrouve un peu les mêmes envies et les mêmes...
Les mêmes attentes, en tout cas, je pense, de la part des lecteurs. Hein. C'est pas parce que je me suis beaucoup inspiré des séries des années 80 que c'est devenu has-been pour autant. Les mots m'accrochent vraiment à mes personnages, à la manière dont je leur fais vivre des aventures tantôt palpitantes, tantôt humoristiques, tantôt dramatiques. Hein. Le drame fait partie maintenant... partie intégrante de la série des légendaires, et les mots m'en redemandent, quoi. Voilà, je les ai rendus addicts, mais je suis content, hein, qu'ils puissent ressentir à travers ma série ce que moi-même je ressentais à travers les séries animées de mon enfance.
Et justement, donc la série arrive un peu à un point charnière finalement, il y a une fin de cycle.
On va dire un deuxième point charnière. Je considère que la série a trois parties. La première, c'était des tomes 1 à 10, on va dire plutôt des tomes 1 à 9. Enfin, 1 à 10, allez. On va dire que la série était encore un peu gentillette, avec un esprit bon enfant, plein d'humour. Il y avait de l'action, mais c'était rarement dramatique. Et à partir du tome 10, j'ai vraiment donné à la série un ton beaucoup plus sombre, plus dramatique, plus violent aussi par moments, et avec des interactions entre les personnages beaucoup plus complexes. Dans un souci, voilà, de m'épanouir un peu plus, parce que lorsque j'ai commencé à faire les légendaires, donc de la BD jeunesse, je m'étais imposé tellement de barrières sur ce que je pouvais montrer, raconter, parce que c'était de la BD jeunesse justement, que très rapidement je me suis retrouvé enfermé dans mes possibilités scénaristiques. Et donc arrivé au tome 9, eh bien, j'ai décidé de tout faire voler en éclats, toutes les barrières que je m'étais imposées, et j'ai commencé à montrer des choses et à raconter des choses n'étaient pas forcément de... qui ne sont pas forcément destinées à un tout jeune public, mais dans laquelle le public ado, pré-ado se retrouve bien, et j'ai décidé depuis d'axer ma série sur dans ces directions. Et là, s'amorcera plutôt à partir du tome 19, c'est-à-dire l'année prochaine, qui sortira l'année prochaine, un nouveau virage dans la série. Alors non pas dans la surenchère action drame, hein, faut que ça reste de la BD jeunesse, mais dans le type d'histoire que je vais raconter. Donc je prépare quelque chose qui va être assez déstabilisant pour les fans, et c'est sur cette troisième partie que se conclura la série.
D'accord, donc c'est vrai que finalement la série grandit un peu avec ses lecteurs quelque part.
C'est pas la chose voulue, mais c'est ce qui s'est passé finalement. C'est vrai que mes premiers lecteurs, 10 ans plus tard, ben voilà, ils ont d'autres attentes, d'autres goûts. Et du coup, la série qui est devenue plus sombre et plus mature et plus complexe a répondu à l'attente de mes premiers fans qui étaient devenus des ados. Mais je ne l'ai pas fait dans cette optique-là. Oui. C'était vraiment parce que je voulais m'épanouir davantage dans et raconter des choses un peu plus complexes et des choses qui me ressemblent plus, hein, sans doute. Mais c'est vrai que du coup, ça a répondu en même temps à l'attente des premiers lecteurs qui peut-être commençaient à trouver la série un peu gnangnan et qui voulaient justement qu'il y ait un peu plus de piquant. Alors par contre, c'est vrai que ça pose problème aux tout jeunes lecteurs qui arrivent sur la série, ce qui arrive tout le temps, parce que voilà, des nouveaux mômes atteignent tous les mois l'âge de lecture de ma série. Et souvent, donc là par contre, je préviens souvent les parents, oui, là il peut lire les premiers tomes sans problème, mais voilà, parce que lui il va pas lire un tome par an, il va lire tous les tomes en quelques mois, quoi. Voilà. Donc lui, il va pas grandir en même temps que la série. Donc souvent là par contre, je préviens les parents que voilà, à partir de tel tome, la série est plus destinée aux ados qu'aux petits-enfants du 7-8 ans, quoi. Mais bon, c'est très dur de contenter tout le monde alors.
Effectivement. Et est-ce que la série vous échappe un peu parfois, peut-être quelque part entre...
Il y a
beaucoup de choses, donc...
La série elle-même n'échappe pas. Ce qui peut arriver, c'est que je m'attache des fois beaucoup à tel ou tel personnage et qui devait peut-être mourir dans le tome en cours. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est dommage de le faire mourir maintenant. Il y a encore plein de potentiel, donc des fois ça m'arrive de l'épargner le temps de le retrouver quelques temps plus tard dans un tome. Ça m'arrive de temps en temps, on va dire, voilà, des personnages à qui je renouvelle le contrat, on va dire, dans la série. Mais non, là, ça m'échappe pas. Ça va vraiment dans les directions que je veux. Ce qui m'échappe un peu plus, et c'est normal, c'est par exemple la série des Légendaires Origines, parce qu'elle n'est pas dessinée par moi. Donc même si les histoires sont de moi, les graphismes, eux, des fois, vont aller dans une direction ou apporter quelque chose que je n'avais pas prévu. Mais tant mieux, ça va enrichir l'univers. Et là où la série m'échappe encore plus, c'est dans l'adaptation animée, par exemple, qui est actuellement en cours, qui passera sur TF1 fin 2015, début 2016. Et là, par contre, c'est carrément écrit et dessiné par quelqu'un d'autre. Moi, je supervise, j'ai un rôle de consultant. Donc, ni les histoires, ni les graphismes ne sont de moi. Donc là, on va dire qu'à 90%, la série m'échappe, quoi.
Ce sera un peu une autre version de votre univers.
Pas version, parce que ça n'adapte pas mes tomes.
D'accord.
C'est vraiment des histoires inédites. C'est des histoires qu'on pourra chronologiquement situer à peu près entre les tomes 4 et 5 de ma BD. Donc c'est plus, à la limite, qu'est-ce qu'ils ont vécu à côté que je n'ai pas montré. Ça va être plus ça. C'est plutôt qu'une version remake de ma BD, quoi.
D'accord, donc ce sera vraiment un univers... c'est toujours même
à 90%, il sera familier pour les fans. Hein.
D'accord.
C'est l'un des rôles que j'ai, hein, c'est de m'assurer que les fans ne soient pas largués, hein, et qu'ils retrouvent leur univers. Alors après, il y a des petits ajustements à faire d'un point de vue scénario, d'un point de vue animation, design des costumes qui ont été nécessaires. On va dire que c'est les Légendaires 2.0, quoi. Voilà. Mise à jour, on va dire. Mais pour le reste, ça restera dans l'esprit des premiers tomes de la série.
D'accord. Mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que cette adaptation animée se faisait un peu attendre, entre guillemets.
Pourtant, ça fait très longtemps qu'avec l'éditeur on en parle, mais on attendait de trouver les bons partenaires, la bonne chaîne, tout ça, et ça prend du temps. Ça prend du temps, ouais.
Et donc, justement, au niveau de l'univers, c'est un univers très riche, les personnages sont vraiment très attachants. Vous parliez tout à l'heure des lecteurs qui ont grandi un peu, un peu par accident, mais finalement, en même temps. Et est-ce que c'est pas trop difficile de finalement cadrer tout ça? Vous savez exactement dans quelle direction vous allez?
Maintenant, oui. Vous m'auriez posé la question il y a 2 ans, je ne savais pas du tout quelle direction donner à la série pour sa conclusion, parce que la conclusion s'approche, mine de rien. Maintenant, j'ai trouvé l'histoire. Qui est assez bonne pour servir de dernier chapitre, on va dire. Par contre, je ne sais pas encore comment se conclura cette histoire. Mais la dernière saga, la dernière aventure des Légendaires, je l'ai en tête et elle commencera au tome 19.
D'accord.
Donc à ce niveau-là, J'ai une vue d'ensemble à présent de la série.
Donc c'est vrai que vous parliez de votre influence des mangas notamment, donc on ne faut pas s'attendre à avoir 100 volumes.
Quand je dis que je suis influencé par les mangas, c'est pas en termes de longévité, c'est vraiment en termes de graphisme et d'esprit peut-être, de mise en scène, ce genre de choses. Mais en termes de tomes, non, de toute façon je ne peux pas travailler à la manière des mangakas qui font 200 pages tous les 3 mois, après ils ont des assistants, c'est autre chose, mais non, le manga n'est, et la manière de travailler à la japonaise n'est pas mon modèle en tout point de vue. Il y a certaines choses que j'adhère absolument pas. Donc voilà, je prends ce qu'il y a de meilleur.
Et justement, donc le format finalement de la BD franco-belge convient peut-être.
Oui, ça va tout à fait, parce que si je l'avais sorti en format manga, ça aurait peut-être moins bien pris. Hein. Il y a très peu d'exemples de manga, format manga à la française qui ont marché. Et les jeunes lecteurs, mais mes lecteurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne sont pas forcément des lecteurs de manga. Même s'ils apprécient le graphisme, ils en ont peut-être pas forcément lu à 7-8 ans déjà. Hein. Donc peut-être après, ils s'initient au manga. Mais du coup, si je l'avais sorti dans un format manga, ça les aurait peut-être pas autant attirés que dans le format actuel, quoi, qui est beaucoup plus classique, coloré, et plus rassurant pour les parents aussi. Les parents, une certaine génération a toujours un peu un mauvais œil dès qu'on prononce le mot manga, qui on colle l'étiquette sexe et violence à tout bout de champ, quoi. Les préjugés ont la vie dure. Donc le fait que je n'ai que le graphisme manga, mais que ça reste de la bonne BD franco-belge colorée, cartonnée, ça rassure les parents qui disent bon, ça il peut lire, voilà.
Et donc sur le spin-off,
les légendaires origines.
Comment ça se passe avec Nadou?
Bien, là on est allé sur le 4e tome. Je dis aller parce que ma part à moi est finie sur ce tome-là. J'ai fini les crayonnés et l'histoire du tome origine il y a à peu près un mois maintenant. Donc c'est sa part maintenant, la plus longue, hein, mais bon, c'est comme ça, qui a commencé. On espère le sortir pour le mois de juin. Je ne doute pas qu'il sera au moins aussi bon que les temps précédents. Quoi. Ouais. Dans un esprit un peu différent d'un point de vue histoire, parce que comme là on explore le passé de Shimi, donc l'elfe du groupe, je dirais que si je devais décrire ce tome, ce serait un peu Harry Potter dans le monde des elfes. Parce qu'on va en grande partie découvrir le personnage de Shimi dans...
On va aller au...
On va... Excusez-moi. On va découvrir le personnage de Shimi à travers une école où elle va apprendre à contrôler sa magie élémentaire avec d'autres élèves qui ont les mêmes pouvoirs que et tout ça. Donc ça peut être intéressant, un autre genre que je n'avais pas assez nouveau dans l'univers des légendaires.
Ça vous permet finalement d'explorer aussi d'autres...
Oui, parce que c'est vrai que l'alchimie de la série principale et l'alchimie de la série origine est très différente. La série origine tourne autour d'un personnage et tout le reste, et on voit son environnement et ce qui en a fait le personnage actuel. Alors que dans la série principale, c'est une alchimie de groupe. On suit vraiment les aventures d'un groupe de héros et c'est beaucoup plus compliqué de donner à chacun la part belle, on va dire. Parce qu'il faut que chacun, à un moment donné, et son rôle. Donc c'est vraiment pas la même alchimie. Et en plus, les tomes origines, chaque tome a sa conclusion, alors que dans les légendaires, c'est au moins tous les deux tomes qui a une nouvelle histoire. Donc c'est vraiment une façon de travailler très très différente et beaucoup plus dense du coup. Parce qu'il y a plus de choses à raconter en peu de temps. Enfin, du moins, en un seul album.
Et justement, donc, ces formats d'un seul album comme ça, vous avez aussi, donc c'est La Belle et la Bête, c'est sur un
oui.
seul...
La Belle et la Bête, c'est un album que j'ai fait justement après le tome 8 des Légendaires, au moment où je commençais un peu à tourner en rond, à cause de ces fameuses barrières scénaristiques que je m'étais imposées, et j'avais envie de souffler un peu hors légendaire. On a notamment trouvé l'idée qui me fera vibrer pour continuer la série. Et du coup, j'ai demandé à l'éditeur, je voudrais faire un autre album, ce sera un one-shot, ce sera le temps d'un album, mais je voudrais faire quelque chose de très différent, montrer que je sais faire autre chose que du légendaire, et trouver un nouveau souffle. Quoi. Et donc, si je suis très content du résultat final, malheureusement, le public n'a pas du tout suivi, et on peut parler d'un échec commercial pour La Belle et la Bête. Mais moi, ça m'a permis de tester des choses que je m'étais interdit jusqu'à présent dans les légendaires, donc justement une ambiance un peu plus glauque, du drame, des choses un peu plus dark, et c'est justement grâce à La Belle et la Bête que j'ai pu ensuite incorporer ces éléments là dans la série des légendaires, quoi.
Et justement, donc, au niveau, est-ce que vous avez dans l'idée de faire un projet, d'autres projets du même type?
Non, pas du tout. J'avais à l'époque, ouais. Si la Belle et la Bête avait marché, j'aurais alterné peut-être un album sur deux ou sur trois des légendaires. J'aurais fait un album en one shot un peu comme ça. Mais malheureusement, l'échec m'a bien refroidi et j'ai préféré miser tout sur les légendaires.
Très bien, et donc au niveau des projets, alors
Les projets qu'il y a maintenant concernent tous les légendaires. Hein. J'ai vraiment plus le temps, ni même l'envie d'ailleurs, de me consacrer à autre chose que cette série. Mais c'est vrai qu'avec la série animée, la préquelle, enfin, ou le préquel, selon comment on dit, plus un nouveau projet de série BD sur les légendaires, dont je ne peux pas trop parler pour l'instant, mais qui, si tout va bien, devrait arriver dans les bacs fin 2015 peut-être. Plus les produits dérivés, qui mine de rien arrivent. Hein. Encore une fois, des choses dont je ne peux pas trop parler parce que c'est tout en négociation. Mais on va dire que 2015 devait être une sacrée année pour l'univers des légendaires.
D'accord.
Donc voilà, tous ces projets-là, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais croyez-moi que les choses bougent et arrivent à grands pas.
Donc pour 2015, ben, on vous attend de pied ferme.
Voilà. Ouvrez les caddies. il y aura beaucoup de choses autour des légendaires.
Merci beaucoup Patrick, et donc au plaisir de vous lire dans les suites des aventures des légendaires.
Qui seront palpitantes, je vous le promets.
Merci.
Merci.